RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Depuis 2011, plus de 350 000 personnes sont mortes en Syrie, dont au moins 15 000 dans les geôles du régime de Bachar el-Assad. Les survivants souhaitent que justice soit rendue et c'est souvent dans les pays de l'Union européenne que la riposte s'organise. En Suède, en Autriche, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, mais surtout en Allemagne, seul pays à accepter d'instruire les plaintes contre les dignitaires du régime syrien. Torture dans les geôles syriennes, le combat pour la justice. C'est un grand reportage de Cécile Debarge.
Nous sommes dans l'ouest de l'Allemagne. Un soleil froid baigne le quai en ce début d'après-midi. Un train s'apprête à partir pour une ville moyenne de la région de Dortmund dont le nom ne peut être dévoilé. C'est là que vit dans la plus grande discrétion Chapal Ibrahim, un Syrien réfugié en Allemagne avec sa femme et ses quatre enfants depuis décembre 2013.
Je ne peux pas tout vous raconter. Il faudrait au moins un an pour expliquer tout ce qui s'est passé à Sadnaya.
Chapal Ibrahim est un survivant. Après 21 mois dans les prisons syriennes, dont 13 passées à Sadnaya, décrite par Amnesty International comme un abattoir humain.
La nourriture, c'était une fois par jour et on avait trois fois rien. Pour cette personne, on avait une pomme de terre, un œuf ou un demi-œuf, et peut-être 5 cuillères de riz et 2 pains verts, des pains moisis. Vraiment, ça n'aurait même pas suffi à un oisillon.
Originaire de Kamishli, dans le Kurdistan syrien, ce kinésithérapeute de formation raconte les journées passées dans le noir ou les yeux bandés. Le froid glacial des montagnes qui entourent Sadnaya en hiver, l'obligation de rester en sous-vêtements, le bruit des os des genoux qui claquent après des mois de dénutrition. Et les humiliations permanentes de la part des gardiens.
Un jour, on a vu les gardes uriner sur notre repas. Et bien sûr que oui, on l'a mangé. On avait faim.
Il se souvient de la mort d'un détenu ramassé dans sa cellule, mort de maladie et d'épuisement. Son récit est une accumulation de détails sordides. Au bout de plus d'une heure d'entretien, il marque une pause.
Je veux vous raconter quelque chose. C'est une expérience de torture qu'ils font en privé. Ça s'appelle Blanco.
Dans la même pièce, un homme fixe le sol d'un regard vide. C'est un de ses amis de longue date, réfugié en Allemagne lui aussi. Il a été détenu dans l'une des prisons des services de renseignement, puis à Sadnaya, mais ne préfère pas témoigner, de peur des représailles contre sa famille restée en Syrie. Au nom de Blanco, il acquiesce avant que ne commence le récit de son ami.
Blanco, c'est quand on était pendu par les mains dans une pièce, avec uniquement la pointe des pieds qui pouvait toucher le sol. Ça a duré pendant 5 jours. On ne nous donnait que de l'eau salée qu'on nous forçait à boire. En même temps, on m'avait noué une sorte de bandage autour des parties génitales pour qu'aucun liquide ne puisse sortir de mon corps. C'est ça, Blanco.
Pour certains, la torture dure 7 ou 8 jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Chapal Ibrahim, lui, a miraculeusement survécu.
J'ai entendu quelqu'un dire que j'étais mort et ils m'ont balancé comme ça dans ma cellule.
Chapal Ibrahim ne le sait pas, mais pendant sa détention, son nom est scandé durant les manifestations pour exiger sa libération. Porte-parole de l'Organisation nationale pour la jeunesse kurde, son arrestation en septembre 2011 avait aussitôt été relayée par les militants des droits de l'homme. Sur YouTube, il retrouve une vidéo de la foule qui l'attend chez lui à Kamishli lors de sa libération. Méconnaissable, il avait perdu 30 kilos. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre à ça, dit-il en kurde. Comme lui, nombreux sont les rescapés des geôles syriennes à se poser la même question. Lorsque l'avocat syrien Anwar Albouni décide d'organiser une action en justice avec les plaintes des survivants, il est dépassé par le nombre de témoignages reçus.
J'ai reçu plus de 100 contacts. J'ai choisi ceux qui vivaient en Allemagne et je me suis concentré sur les victimes des forces militaires de trois groupes en particulier.
Détenu politique pendant près de 7 ans dans les geôles du régime, réfugié à Berlin en août 2014, l'avocat de 59 ans, originaire de Hama, est le premier à activer l'appareil juridique allemand contre les responsables du régime syrien. Il s'appuie sur la compétence universelle, un mécanisme que décrit l'avocate française spécialisée en droit international, Clémence Bechtart.
Concrètement, le procureur fédéral allemand peut ouvrir une enquête et envisager des poursuites sans qu'aucun suspect ne soit présent sur le territoire allemand et sans qu'on soit en présence d'une victime de nationalité allemande.
La tâche est immense. L'Allemagne est le premier pays au monde à accepter les plaintes des victimes syriennes. Depuis le 1er mars 2017, 3 plaintes ont été successivement déposées devant la Cour fédérale de Karlsruhe, une avancée majeure pour l'avocat syrien.
Avec ces plaintes, on veut envoyer un message aux criminels. Il n'y a plus d'endroit où vous êtes en sécurité.
Parmi les accusés, les noms des hauts dignitaires syriens responsables de la machine de mort à l'œuvre dans les prisons. Au printemps 2018, un mandat d'arrêt international est délivré par l'Allemagne contre le général Jamil Hassan, responsable des redoutés services de renseignement de l'armée de l'air. Derrière cette annonce se cachent des milliers d'heures de travail effectuées souvent dans le silence des grandes villes européennes pour accumuler des preuves ou retrouver des témoins. Syrian Archive est l'une de ces initiatives.
Nous sommes 6 et nous avons collecté plus d'un million de photos et de vidéos. Ça en fait pas mal. Les gens nous donnent des disques durs, des clés USB ou bien les envoient directement par mail et on récupère aussi des vidéos en ligne sur YouTube.
Ces photos et ces vidéos montrent des attaques, des bombardements, des morts. Elles ont été obtenues grâce à un réseau de plus de 2000 sources disséminées à travers le pays.
L'idée, c'est de voir comment des preuves visuelles pourraient aider les avocats à mieux comprendre le contexte de leur dossier juridique.
Une par une, chaque vidéo ou photo est vérifiée. Grâce aux métadonnées contenues dans chaque fichier, l'équipe du Syrian Archive vérifie le lieu de l'incident, la date et l'heure, les véritables propriétaires de la vidéo. Commence alors un long travail de recoupement.
Notre objectif est que ce soit utilisé pour monter des dossiers devant les tribunaux ou à des fins de plaidoyer, mais c'est le seul moyen qu'on a de savoir ce qui s'est réellement passé, dans le cas bien sûr où les documents sont vérifiés.
Créé en 2014, le site est devenu un coffre-fort de l'histoire. Près de 7000 documents ont déjà été vérifiés, un chiffre insignifiant par rapport aux plus d'un million de vidéos et photos récoltées, et un obstacle pour affiner les recherches, explique le trentenaire spécialiste de la sécurité des données.
Nous n'avons pas le temps pour vraiment analyser les vidéos et trouver qui était présent. Mais ce serait bien sûr la prochaine étape, une fois qu'on aura tout le matériel et qu'on saura comment procéder. Alors là, on pourra rechercher des personnes en particulier.
Identifier les petites mains du régime, c'est l'une des plus grandes difficultés à laquelle sont confrontés ces Syriens en quête de justice. Torturé pendant des mois, Chapal Ibrahim serait incapable de reconnaître ses bourreaux.
Je ne les ai pas vus. Je ne saurais pas reconnaître ceux qui m'ont frappé. Et on ne peut même pas reconnaître leur voix, car quand la police criait à Sannaya, ils prenaient une grosse voix. Mais si aujourd'hui j'étais à côté de cet homme, il aurait une voix différente.
Comment alors faire confiance à un autre réfugié syrien? Comment être sûr que face à soi ne se trouve pas quelqu'un coupable de crimes de guerre? Dans le doute, de nombreuses victimes préfèrent le silence. Chapal Ibrahim, lui, ne s'imaginait pas se taire.
Bien sûr que j'ai peur. Il y a des endroits où je ne vais pas tout seul. J'ai peur en permanence, mais en même temps, je devais parler. Je devais porter plainte car il y a toujours des gens en prison.
Aujourd'hui, il aimerait que la peur change de camp.
J'aimerais vivre comme un homme normal, mais je n'y arrive pas. Par exemple, quand j'ai devant moi de la bonne nourriture, je n'arrive pas à en profiter. Immédiatement, je pense à mes collègues qui sont en prison et qui n'ont rien à manger.
Retourner à une vie normale est seulement possible. Installée dans une coquette résidence du nord-ouest de la banlieue parisienne, la famille d'Abag a été frappée, elle aussi, par son lot de douleurs.
Là maintenant, vous nous voyez au bout de 5 ans, Mais on a beaucoup, beaucoup souffert. C'était des nuits blanches, c'était des trucs, c'est une souffrance horrible. Parce qu'on sait que le régime, une fois il prend quelqu'un, il est torturé.
Dans le grand salon du pavillon, Anan Dabag fait défiler sur l'écran de télévision les photos qu'elle conserve précieusement dans son téléphone portable.
Alors, c'était Obeida et Mazen. C'était en Syrie en 2009 ou 2010. De toute façon, avant l'événement. Ça, c'est avec Gra et Asafi chez eux.
Montre-la, la photo.
Hein ? La dernière photo, tu veux ? Attends.
Un père et un fils, Mazen et Patrick Dabag. Deux visages souriants que l'on découvre tour à tour sur des clichés en noir et blanc lors d'un repas de famille ou dans leur maison de Damas en Syrie. Tous deux sont franco-syriens et ont été arrêtés le 3 et 4 novembre 2013.
Voilà, ça c'est toutes les photos de leur identité française, leur inscription au consulat français, ça c'est leur carte d'identité française, leur passeport français.
Les services de renseignement embarquent d'abord le fils, Patrick, pour ce qui doit être un simple contrôle. La famille n'est pas inquiète. Le jeune homme de 19 ans n'a jamais participé aux manifestations.
Puis le lendemain, ils reviennent aux mêmes heures. Mais cette fois-ci, beaucoup plus, plus de militaires. Ils ont dit, bon, on veut voir le père. Vous n'avez pas su éduquer votre fils. C'est l'argument de ces personnes. Mon frère, il est parti avec eux. Puis ils m'ont demandé de s'habiller. Donc il a dit, là où vous m'emmenez, je sais que c'est pas la peine de m'habiller. Donc il était en pyjama, il était avec des chaussons.
Obeida Dabag est le frère de Mazen, l'oncle de Patrick, franco-syrien. Il travaille depuis 40 ans comme ingénieur pour un grand groupe français. Il n'est donc pas présent à Damas au moment des faits. Cinq jours après l'arrestation, paniquée de ne pas avoir de nouvelles, la femme de Mazen appelle le reste de la famille. Ce sont alors 5 ans de douleur, d'espoir déçu, de fausses promesses et de tentatives d'extorsion de la part de personnes peu scrupuleuses se faisant passer pour des intermédiaires.
Ils étaient prêts à transférer Mazen dans une prison civile à Adra, moyennant 30 000 dollars. Donc ils ont dit ok, donc ils ont payé 15 000 et 15 000 restants quand ils seront sûrs que la transaction est faite et qu'ils ont transféré. Et au bout de 15 jours, la personne les recontacte, il lui a dit malheureusement ils sont décédés.
Une pratique courante auprès des proches de victimes qui sont la cible d'arnaqueurs sans scrupules.
C'est un cas très emblématique des centaines de milliers de disparitions forcées, de ce que vivent les familles syriennes qui ont vu leurs proches disparaître du jour au lendemain sans avoir jamais aucune nouvelle, de savoir s'ils sont aujourd'hui vivants ou morts, voilà, sans avoir aucune nouvelle, ce qui est une forme absolument terrible de terreur qui est distillée parmi la population syrienne par le régime syrien.
Coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, Clémence Bektart est l'avocate d'Obeida Dabag. Faute de recours possible en Syrie, c'est vers la France que le frère de la victime s'est tourné. Pourtant, pas de compétence universelle comme en Allemagne, mais une compétence extraterritoriale plus restrictive. Mais Mazen et Patrick Dabag ont la double nationalité française et syrienne. Leur dossier est donc recevable.
Le seul levier dont disposent les victimes syriennes, c'est cette compétence extraterritoriale. Et ces enquêtes, elles sont une manière de commencer à nommer judiciairement les crimes. Oui, les organisations de défense des droits de l'homme l'ont fait. Oui, la commission d'enquête des Nations Unies a parlé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Mais c'est autre chose que des juges indépendants en Europe puissent établir, non seulement nommer judiciairement les crimes, mais aussi établir des responsabilités pénales individuelles.
Une plainte contre Damas a été déposée aujourd'hui à Paris pour crimes contre l'humanité. Au cœur de l'affaire, un père et son fils, tous deux franco-syriens, qui auraient été enlevés par les services syriens.
En parallèle, Obeida Dabag mobilise les médias français. Il informe les autorités, écrit au président de la République de l'époque, François Hollande, de qui il reçoit une réponse en janvier 2014. Depuis, plus rien. La seule nouvelle est arrivée de Syrie cet été. De manière inédite, les registres de l'état civil ont répertorié 68 000 nouveaux décès.
Les gens en fait proposaient à ce que bon, ceux qui avaient des trucs aillent de même à l'état civil, puis demandent un extrait familial ou un extrait individuel d'état civil, donc c'est ce qu'on a fait.
Les noms de Mazen et Patrick sont inscrits sur le registre, officiellement déclarés morts, en 2014 pour le fils et 2017 pour le père. Des dates qui pourraient tout à fait être fantaisistes, personne ne pouvant les vérifier. Maintenant que les Dabag connaissent la vérité, un autre combat commence, celui pour la justice.
On essaie de comprendre qu'est-ce qui a, pendant 5 ans, empêché les autorités françaises de travailler. Ou s'ils ont travaillé, pourquoi ? Il y a eu blocage, on peut plus empêcher leur décès. C'est-à-dire maintenant qu'on a la preuve qu'ils sont morts, c'est plus pareil.
L'information judiciaire déposée en France suit son cours, tout comme les plaintes déposées en Allemagne.
Maintenant, nous allons arrêter de présenter d'autres dossiers. Nous allons donner du temps aux procureurs pour étudier les dossiers qu'ils ont déjà. Et je me refuse à ce que la justice traditionnelle se retrouve uniquement entre les mains des Européens. La justice de transition doit avoir lieu en Syrie et être menée par les Syriens. C'est indispensable pour construire la paix.
La prochaine étape pour Anwar Albouni, c'est de convaincre d'autres procureurs européens d'imiter la Cour fédérale allemande. Un combat sans relâche pour l'avocat qui rêve de retourner en Syrie.
Si vous ressentez une injustice, vous ne trouverez jamais la paix. Vous aurez toujours l'esprit de revanche. Moi, j'ai perdu toute ma vie. Qui me la rendra ? Au moins, faisons en sorte que les criminels ne soient pas en liberté.
Pour le moment, la France et l'Autriche étudient les plaintes déposées par des ressortissants binationaux. Quant à la Suède, où sont réfugiés plus de 170 000 Syriens, elle a été le premier pays européen à condamner un ressortissant syrien pour crime de guerre. À 3 reprises, elle a jugé au nom de la compétence universelle des crimes commis en Syrie, mais avec une condition essentielle, tous les accusés se trouvaient sur son territoire. Torture dans les geôles syriennes, le combat pour la justice, un grand reportage de Cécile Debarge à la réalisation Pierre Chaffanjon.